France Culture.
Bonjour, à l'écoute de France Culture en ce dimanche après-midi, Jean-Luc Gadreau avec vous, très heureux naturellement de vous retrouver pour ce cinquième et avant-dernier rendez-vous de Solae, le carême protestant, en partenariat avec la Fédération protestante de France et les éditions Olivetan. La paroisse de l'Église protestante unie de l'Annonciation a confié cette année ses interventions à la pasteur Nathalie Chaumet, pasteur à Paris dans l'Église protestante unie de l'Étoile. L'audace de vivre, des gestes pour espérer, un titre générique que Nathalie nous invite à visiter à partir de l'évangile de Luc et avec des gestes simples, parfois fragiles, parfois risqués, qui disent en tout cas un choix, c'est celui d'espérer envers et contre tout sur le chemin de Pâques. Chaque dimanche, ce carême protestant est porté musicalement par Pauline Griffith, harpiste professionnelle, enseignante au conservatoire de Chatou, et pour les lectures des passages bibliques ou autre texte, c'est la voix de Florence Guémy, coordinatrice de ces carêmes protestants pour l'Église protestante de l'Annonciation à Paris. Cet après-midi, nous évoquerons des hommes qui tenaient Jésus, se moquaient de lui et le battaient. Avec cette question au cœur de notre réflexion, peut-on se défaire de la violence qui nous guette et rompre la spirale ? Bonjour Nathalie.
Bonjour Jean-Luc.
Dans notre chemin de carême, nous nous sommes déjà penchés sur quatre gestes qui, dans l'élan vers Pâques, nous appellent à choisir la confiance, la solidarité, la reconnaissance, à choisir ce qui fait vivre finalement. Mais aujourd'hui, Nathalie, nous allons fonctionner un peu autrement, réfléchir en quelque sorte à l'inverse, en tentant d'éclairer la gesticulation de la haine et de débusquer les gestes mortifères.
Oui, Jean-Luc, car notre vie n'est pas faite que de beaux gestes, loin s'en faut. Et Jean-Luc, les récits bibliques ne sont pas non plus un conte de fées. Aujourd'hui, nous allons écouter simplement trois versets qui racontent la violence à l'égard de Jésus lors de la nuit de son arrestation. Il nous évoque des paroles humiliantes et des gestes destructeurs. À leur écoute, nous allons tenter de mettre en évidence quelques-uns des mécanismes de la violence. Jean-Luc, durant la Semaine Sainte, nous écouterons les récits qui mènent des rameaux à la crucifixion et nous les écouterons dans la prière. Mais aujourd'hui, nous allons mettre en exergue le moment où Jésus est à la merci des gardes. À partir de ce verset, nous tenterons de répondre aux questions suivantes. De quoi la violence se nourrit-elle ? Pouvons-nous échapper à son emprise, et non seulement échapper à son emprise, mais aussi la faire reculer ?
Mais avant d'écouter ce passage, Nathalie, il peut être bon de rappeler la manière dont les événements s'enchaînent. Nous voici donc lors de cette nuit de l'arrestation de Jésus, une nuit où tous les liens solidaires se défont. Nathalie, pouvez-vous nous rappeler en quelques mots les étapes de cette nuit si particulière ?
Eh bien, après le récit de la scène, Jésus se rend au mont des Oliviers. Là, il demande à ses disciples de prier afin de ne pas entrer en épreuve. Le mot « épreuve » en grec évoque aussi la tentation. Et je trouve, Jean-Luc, que cette double signification est passionnante. Car les épreuves nous fragilisent et nous conduisent parfois au risque de bien des tentations. Dans les épreuves, nous pouvons par exemple être tentés de fuir, de prendre nos jambes à notre cou, d'abandonner la place. Oui, fuir, ne pas affronter la difficulté, voilà une première tentation. Lorsque l'épreuve nous fragilise, nous éprouve, nous sommes parfois tentés de renoncer, de baisser les bras. Nous sommes aussi bien souvent tentés d'abandonner la foi ou simplement d'abandonner tout espoir, de nous laisser aller à la désillusion. Nous pouvons être tentés d'abandonner nos solidarités familiales. Nous pouvons aussi être tentés par le chemin de la colère. Oui, toute épreuve s'accompagne de tentation et c'est pourquoi la parole du Notre Père qui nous dit « ne nous laisse pas entrer en tentation » est si précieuse. Dans le récit de l'Évangile, Jésus sait que son arrestation va être une épreuve pour les disciples et qu'ils vont affronter ces tentations de la démission ou de la colère. Mais revenons à Jésus. Lui-même s'éloigne et dans la prière, il affronte l'angoisse. Le terme grec employé est extrêmement fort, celui de l'agonie. Lorsqu'il retrouve les disciples, ceux-ci se sont endormis, épuisés par la tristesse. Tout se passe, je crois, Jean-Luc, comme si l'ombre de la mort que chacun ressent ici comme inéluctable les avait déjà pétrifiés, comme si le sommeil était la seule issue d'un réel angoissant, une manière de se tirer, de s'absenter, de ne plus y être, de ne plus en être de toute cette histoire. Oui, comme s'ils avaient succombé à cette tentation de la démission. Jean-Luc, il y a parfois des événements, des temps que nous voudrions tant éviter, justement, ne pas vivre, des étapes dont nous savons par avance l'issue tragique. Soudainement, le temps qui jusque-là nous semblait extensible se rétracte. Et nous voilà dans cette impuissance à déjouer l'approche du malheur. Et je crois que c'est ce qui se joue ici pour les disciples.
Après ce temps de prière, de lutte avec l'angoisse pour Jésus et puis de torpeur pour les disciples, voilà que les événements s'accélèrent.
Eh bien, l'inéluctable se produit. Judas s'approche et embrasse Jésus. Mais cette proximité au plus près du visage n'est pas d'amour. Elle est de volte-face, elle est de désertion. C'est le geste final d'une histoire partagée, une forme d'adieu au passé. Les disciples ont suivi Jésus, il était pour eux le Messie. Ses dernières heures à Jérusalem, l'image idéalisée du Messie, ce reflet éclatant finalement, je crois que les disciples avaient cru discerner, a sans doute disparu et il n'y a peut-être plus dans leur regard que la réalité de leur propre image, c'est-à-dire finalement une poignée de disciples montés à Jérusalem pour suivre un homme à dos d'ânon sans défense, à la merci de tous. Dans cette nuit de l'arrestation, la torpeur des disciples, incapable de prier avec Jésus, puis la volte-face de Judas, nous disent l'ampleur de la déception, de la désillusion que le groupe des douze affronte. Alors Jean-Luc, perdre, peut-il conduire à se perdre soi-même? Il est des pertes qui sont telles qu'un vide abyssal s'ouvre sous nos pas. Elles touchent au sens de l'existence, au risque d'effondrement intérieur. Face à la perte, je crois qu'il arrive que certains puissent trouver dans la colère une force puissante apte à combler le manque. Et dans le délitement intérieur, elle prend alors l'apparence d'un ciment salvateur. À cet instant du récit, les disciples ne savent pas encore que la mort de Jésus est inéluctable, mais c'est le temps de la menace. Et la menace les fragilise, elle défait une fidélité. Vers qui, vers où, vers quoi se tourneront-ils? Ont-ils perdu leur temps, leur vie à suivre Jésus? Cette perte, est-il encore temps de l'éviter, de sortir les épées? L'un des disciples emporte l'oreille d'un serviteur, le sang coule.
Nathalie, Jésus est alors fait prisonnier, il est ensuite emmené au palais du grand prêtre, et Pierre le suit de loin.
Oui, Pierre suit Jésus. Toute fidélité n'est peut-être pas encore perdue. Mais l'espoir est de courte durée, car voilà qu'à la clarté du feu, Jean-Luc, ou peut-être Pierre vient chercher un peu de réconfort, voilà qu'il est dévisagé et reconnu par trois fois. Au chant du coq, Jésus pose sur lui son regard. Pierre sort et pleure. Sa loyauté n'a pas résisté à la peur d'être lui aussi arrêté. Nous voici peut-être avec Pierre renvoyés, je dirais, au courage qui se défait, à cette fin du courage sur laquelle réfléchit la philosophe Cynthia Fleury. Voici ce qu'elle écrit.
Chaque individu connaît cette phase d'épuisement et d'érosion de soi. Cette épreuve est celle de la fin du courage. Et elle ajoute « La fin du courage, c'est la confrontation avec le sens de la vie qui nous échappe. »
Merci Florence pour cette lecture. Il me semble que dans l'histoire, Pierre expérimente cette confrontation avec un sens de la vie qui le dépasse. Ce n'est pas ainsi que les disciples avaient imaginé l'histoire. Peut-être qu'il éprouve ce sentiment d'un soi qui s'érode, pour reprendre cette expression de Cynthia Fleury, d'un soi qui ne sait plus où il en est, alors même que dans cette cour, les autres le lui ont rappelé sans équivoque, tu es l'un des leurs. Mais cette place, l'un des leurs, eh bien Pierre n'en veut plus.
Pasteur Nathalie Chaumet, c'est alors que soudain, la violence va surgir, les soldats vont s'en prendre à Jésus.
Oui, les soldats vont s'en prendre à Jésus, ils vont pouvoir le faire en toute impunité. Car à ce stade de l'histoire, finalement, Jésus est seul, tous les disciples ont fui ou quitté la scène. Or, nous savons, Jean-Luc, à quel point une victime abandonnée de ses soutiens devient une proie facile. La torpeur des disciples, la volte-face de Judas, l'abandon de Pierre par le reniement nous raconte, je crois, comment une solidarité, soudainement, peut voler en éclats et laisser le champ libre à la violence. Jean-Luc, avant d'aller plus loin, soulignons à quel point ces récits nous invitent à la vigilance. Car je crois que toute communauté, même la plus belle, est au risque de la désillusion, de l'effritement lorsque l'idéal, ou peut-être même simplement les espoirs escomptés, volent en éclats, lorsqu'il faut affronter les difficultés de nos réalités humaines. Or, la violence est là, tapie à notre porte, et cette violence guette les chacun pour soi et les sauf qui peut. Elle s'engouffre dans nos démissions et dans nos abandons. Dans le récit, le lien solide qui encordait les disciples à Jésus se distend. Soudainement, en lieu et place de la communion de la prière, le sommeil, en lieu et place de la proximité entre maître et disciple, la volte-face, en lieu et place de la fidélité, le reniement. Oui, c'est une solidarité qui est défaite et Jésus est donc seul.
Les adieux du Ménestrel de John Thomas par Pauline Griffith, que nous entendrons dans une seconde partie encore dans quelques instants. Nathalie, nous avons rappelé les grandes étapes de cette nuit de l'arrestation. Pierre vient donc de quitter le palais et c'est alors que la violence déferle. Car vous l'avez dit, quelle plus belle occasion offerte. Alors ça fait bizarre de dire les choses ainsi, mais c'est ainsi que les choses se passent. Quelle plus belle occasion offerte aux violents que l'abandon de la victime. Écoutons les versets 63 à 65 du chapitre 22 et c'est Florence bien sûr qui nous les lit.
Les hommes détenant Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Et ils l'avaient recouvert d'un voile et l'interrogeaient en disant « Prophétise, qui t'a frappé ?» Et il disait contre lui beaucoup d'autres injures.
Pasteur Nathalie Chaumet, voilà donc ces trois versets. Il nous raconte le déferlement de la violence.
Oui, et Jean-Luc, c'est donc sur ces gestes que je souhaitais aujourd'hui m'arrêter. En effet, ils sont emblématiques des manœuvres des violents. Emprise, harcèlement, réification du sujet, passage à l'acte, jouissance mortifère. L'Évangile éclaire ici crûment certains ressorts de la violence.
Tout d'abord, vous le soulignez, nous sommes dans une situation bien évidente d'emprise.
Alors cette emprise-là, Jean-Luc, elle est facile à identifier. Les gardes détiennent Jésus. La détention a ici l'apparence de la légitimité. Mais derrière la détention, le terme d'emprise est justifié car les gardes s'approchent de Jésus de près, de bien trop près, et les coups surgissent. L'emprise vient clore l'espace, enfermer la victime dans un huis clos angoissant qui paralyse le mouvement et la pensée. Peu à peu, il devient impossible de se projeter dans un hors-champ de l'agresseur. Et je crois que c'est ce qui se joue ici. Mais Jean-Luc, nous pouvons aussi, bien sûr, évoquer ces emprises d'ordre psychologique, souvent accompagnées d'ailleurs de violences physiques, où le contrôle coercitif de l'agresseur ligote, enchaîne peu à peu la victime à ce dernier.
L'emprise donc, Nathalie, mais le récit dénonce aussi les mécanismes d'humiliation.
Oui, le récit met en évidence ces mécanismes, notamment par le harcèlement. Vous l'avez entendu, Jean-Luc, moqueries et insultes envahissent le champ de la parole. L'humiliation vise à abaisser autrui, à le dévaloriser dans son propre regard et dans celui des autres. Il s'agit de lui faire perdre toute valeur personnelle et sociale. Car celui qui n'a plus de valeur est facilement jetable, il devient ce rebut dont on peut se débarrasser. Cela facilite finalement le passage à l'acte. Martin Stephens, dans son ouvrage « Ce qui nous fait humains », cite ces terribles propos de Franz Stangl, qui était commandant du camp de Treblinka. Ils étaient si faibles, on leur faisait tout ce qu'on voulait. On n'avait rien de commun avec ces gens, aucune possibilité de communication, c'est là que vient le mépris. Je ne comprenais pas comment ils pouvaient se laisser faire. Ces quelques paroles donc de ce commandant fait apparaître ce paradoxe terrifiant, Jean-Luc. L'humiliation que le bourreau ou le harceleur fait subir à la victime lui permet de la regarder comme si elle était réellement indigne. et renforce donc en lui-même le sentiment d'une légitimité tout à fait fallacieuse. Dans une perversité décuplée, il se dédouane de toute responsabilité et il rejette la faute sur la victime, ce qui est le comble. C'est pourquoi, Jean-Luc, je voudrais insister sur le fait que la parole, qu'elle soit d'ailleurs raillerie ou d'injure, qui pourrait paraître seulement être des mots qui pourraient glisser sur la peau, eh bien, cette parole est en elle-même réellement un acte, car les mots blessent, dégradent la victime, et cette dégradation, la victime la ressent physiquement, elle est touchée en profondeur de son être.
Nathalie Chaumet, ce n'est pas explicitement, bien sûr, dans notre passage, mais cette humiliation n'est-elle pas par la suite continuée par Hérode ? Qu'en pensez-vous ?
Oui, Hérode poursuivra ce processus d'humiliation. Il sera déçu par le silence de Jésus qui refusera de répondre à ses questions. Et il le renverra à Pilate en l'affublant d'un habit éclatant. Nous retrouverons l'emprise, l'humiliation par la raillerie, la réification de celui que l'on habille à sa guise, tel une marionnette. C'est un geste de dérision extrême qui vise à se moquer de la royauté de Jésus. En s'attaquant à l'apparence de Jésus, en l'affublant d'un vêtement écarlate, eh bien c'est son indignité au contraire qu'Hérode cherche à afficher aux yeux de tous. Et il sera d'autant plus facile de penser l'élimination de Jésus.
Dans les trois versets que nous avons écoutés tout à l'heure, aux vociférations des gardes répond aussi le silence de Jésus.
Oui, et le contraste est saisissant, ce silence. Qu'en est-il ? Est-il déjà préfiguration du silence de la mort ou est-il l'expression de la dignité intérieure absolue de Jésus ? De ne pas donner d'écho aux paroles des soldats, de ne pas donner prise à leur violence, de les renvoyer à l'étourdissement de leur tapage. En tout cas, Jean-Luc, le verset biblique met en évidence à quel point la parole est un enjeu de pouvoir et de domination. Celui qui est silencieux subit un effacement symbolique brutal.
Nathalie, la violence des gardes se déchaîne donc par l'humiliation, raillerie, injure, vous l'avez évoqué, mais aussi physiquement par les coups.
Et oui, la violence se déchaîne ici en paroles et en gestes, et les soldats s'en donnent à cœur joie, car il y a une jouissance mortifère ici mise en évidence dans les railleries, dans les rires. Cette jouissance, elle s'origine dans l'exaltation de la toute-puissance que le violent ressent face à l'impuissance de sa victime. Si nous poursuivons notre réflexion sur la violence, nous voyons à quel point les victimes deviennent ce mauvais objet sur lequel il est finalement possible de s'acharner sans limite. Et Jean-Luc, il y a un élément intéressant, c'est que le déchaînement de la violence à l'égard de Jésus est probablement facilité par un élément, justement, c'est que les soldats ont recouvert le visage de Jésus d'un voile. Alors, selon les catégories de Lévinas, Jésus ne peut plus être envisagé par ses agresseurs. Et cela facilite probablement le déferlement de la violence. Car la disparition du visage d'autrui accentue la déresponsabilisation. Et puis, de plus, les soldats ne risquent rien à aveugler. Comment Jésus saurait lequel l'a frappé ? Voici ce qu'écrit Emmanuel Lévinas et nous écoutons Florence nous le lire.
Voici que, à travers le visage d'autrui, à travers sa mortalité, tout ce qui en autrui ne me regarde pas, me regarde. Responsabilité pour autrui. Visage comme me signifiant le « tu ne tueras point » et par conséquent aussi « tu es responsable de la vie de cet autre, absolument autre, responsabilité pour l'unique ».
Bien sûr, chez Emmanuel Lévinas, le visage n'est pas à comprendre au sens propre. C'est la vulnérabilité du sujet et la manière dont cette vulnérabilité convoque la responsabilité pour autrui que ce concept de visage exprime chez Lévinas. Mais justement, Jean-Luc, dans le récit, c'est précisément le visage de Jésus qui est voilé et qui empêche tout échange de regard, tout appel, même muet de sujet à sujet. Et cette impossibilité de convoquer l'agresseur par le face-à-face, ne serait-ce donc que par le regard, eh bien, permet sans doute à ces soldats d'agir avec un sentiment d'impunité, à l'opposé de cet appel à la responsabilité de tout ce qui, chez la victime, devrait le regarder, regarder donc l'agresseur, le convoquer dans ce « tu ne tueras point ».
Et Nathalie Chaumet, une autre référence qui peut venir à l'esprit, cet effacement décrit de manière poignante dans la chanson de Jean Ferrat, Nuit et brouillard. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Mais avec ce titre, Nuit et brouillard, d'ailleurs, arrêtons-nous justement aussi sur un autre élément important, c'est la nuit. Comment nous permet-elle de penser la violence ?
Eh bien, de manière générale, la nuit est propice, nous le savons, aux violents. Les victimes sont isolées, la vigilance est abaissée, et sans doute qu'elle confère aux agresseurs l'illusion que leurs actes resteront cachés. Mais cette nuit que Jésus traverse nous renvoie aussi à ces nuits intérieures terribles dans lesquelles les victimes, même en plein jour, se trouvent donc prisonnières, assujetties à l'ombre menaçante de leur agresseur. Car de jour comme de nuit, la violence, oui, étend son spectre et elle efface toujours un peu plus le sujet. Cela me fait penser à un verset du psaume 88, je crois, qui me vient à l'esprit. « Tu as éloigné de moi compagnon et ami, pour intime, j'ai les ténèbres. » Les ténèbres, voilà le sentiment intérieur des victimes à toute heure du jour et de la nuit.
Alors Nathalie, vous vouliez mettre en évidence également à quel point la violence est prompte à déferler et il est bien alors difficile de l'arrêter.
Oui, Jean-Luc, nous connaissons l'histoire et nous savons qu'en quelques heures de la journée, Jésus va vivre une parodie de procès. Ainsi, le récit met en évidence une autre caractéristique de la violence. C'est la vitesse avec laquelle elle s'emballe. En effet, la violence, Jean-Luc, et nous le voyons sur nos scènes politiques aujourd'hui, prend de vitesse ses proies et leur soutien. Les violents sont très pressés d'agir. Car c'est ainsi qu'ils coupent l'herbe sous le pied à toute possibilité de résistance. Et à peine quelques-uns tentent-ils d'organiser une résistance, justement que les violents ont déjà, assujetti la loi, déjà déformé le droit.
Nathalie, ces versets bibliques nous exhortent à la vigilance et en appellent à notre capacité de choix. Vous vouliez nous faire écouter un extrait d'un poème de Clara Isée qui nous invite à choisir ce qui fait vivre. C'est Florence qui nous le lit.
Je vous ai donné des frères. La musique et les rivières, leur préférez-vous la guerre? Les champs brûlés de la colère, n'aimez-vous pas la lumière? Les nuances et la poussière, levez-vous pour la tendresse, l'amitié et la vieillesse.
Nathalie, nous voici à l'opposé même de la confiance, de la solidarité, de la reconnaissance, de l'audace de vivre que nous avions explorée jusque-là. Alors, comment se défaire de la violence ? Comment suspendre nos gestes, nos paroles, lorsqu'ils visent l'atteinte au sujet ?
Eh bien, Jean-Luc, la violence est encore et toujours à débusquer et c'est pourquoi ces récits sont si importants. Lire les récits de l'Évangile, c'est toujours découvrir que tous les mécanismes que nous avons ici évoqués font partie, malheureusement, de notre commune humanité. Aussi, écouter ces récits, c'est être attentif pour débusquer notre propre violence, afin que nous ne soyons pas emportés loin de nous-mêmes, hors de nous-mêmes. Ces récits nous appellent aussi à débusquer la violence au cœur de nos sociétés avant qu'elle n'étende sa nuit. Il nous appelle, je crois, à construire des solidarités solides, justement, résistantes aux déceptions, aux désillusions. Et puisque c'est à l'écoute des récits bibliques que nous nous plaçons, c'est aussi à nos engagements religieux qu'il nous faut être attentifs, car grande est parfois la tentation de transformer cette belle confiance agissante de la foi, cette joie d'être en Christ, cette force de la solidarité, en un étendard propice à assouvir nos quêtes de puissance.
Nathalie, vous vouliez évoquer aussi un texte du Premier Testament, c'est celui d'Élie, réfugié dans la caverne sur le mont Horeb.
Dieu va se révéler à Élie qui a choisi, au nom du Dieu qu'il confesse, la toute-puissance de la violence. Et voilà qu'Élie et Jean-Luc va découvrir que Dieu n'est ni dans la tempête, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais, selon les traductions, dans un son doux et subtil, une voix de fin silence, une voix ténue. Cette histoire d'Élie, je la trouve essentielle, parce qu'elle nous invite, Jean-Luc, je crois, à nous défaire des mirages. Vivre la foi, c'est peut-être d'abord entrer dans cette écoute de nos vulnérabilités. Et c'est découvrir que c'est parfois dans les failles de nos vies, dans les creux du rocher, que Dieu s'entredit. Il y a un petit chant de Thésée, Jean-Luc, qui dit « Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler ». Ce chant est une prière de peu de mots. Mais nos prières, même de peu de mots, nous aident parfois à repousser les ténèbres pour tenir bon le refus de la tempête, du tremblement de terre, du feu. Oui, parfois, je crois qu'il suffit juste d'une parole retenue, d'un geste suspendu pour arrêter ou mettre fin à la violence. L'histoire d'Élie nous invite à l'écoute. L'écoute d'une voix ténue, juste un souffle, le murmure de l'inouï, la grâce d'un amour.
Avant tout geste, nous voici là revenus à cette écoute par laquelle nous avions commencé notre cycle. C'est le rappel que cette écoute est source de vie. Au commencement est la parole, c'est elle qui ensemence nos gestes, qui leur donne leur clarté.
Et oui, nous voici dans cette écoute de la parole qui ravive en nous cette joie d'être aimé, d'aller et de partager. Et c'est bien à déployer cet amour, Jean-Luc, cette grâce reçue les uns avec les autres, les uns pour les autres, que nous sommes appelés. Car Jean-Luc, là où se déploie la solidarité, l'amitié, la coopération, eh bien je crois que la violence peine à avoir prise. Elle vient se cogner en vain. Là où il y a des secours et des recours, là où il y a des relations vivantes, là où il y a la chaleur de l'amitié, la violence échoue à isoler ses victimes. Voilà, c'est pourquoi il est si important que nous fassions émerger d'autres ciments que ceux de la colère et de la haine. Alors cet appel à faire grandir la vie, de grandes voix s'en sont faites le porte-parole, chacune dans son propre langage. Albert Schweitzer appelait au respect de la vie, Gandhi, Martin Luther King ont montré que la non-violence a raison des plus forts. Mathieu Ricard nous rappelle l'élan créateur de l'altruisme, de la bienveillance. Le pape François appelait, lui, à la révolution de la tendresse.
Revenir à la parole, donc, pour clarifier nos actes en parole et en gestes, voilà qui paraît juste. Mais tous ces grands appels que vous venez de citer ne sont-ils pas un peu trop utopiques, des mots sans enracinement ?
Utopique, non, je ne le crois pas, car si la violence est tapie à la porte, Jean-Luc, je crois que nous avons aussi cette capacité de bienveillance et de solidarité. Et finalement, il est tant d'hommes et de femmes qui le manifestent chaque jour dans leurs engagements, dans leurs familles, dans des associations solidaires, parfois de manière très discrète, mais bien réelle. Oui, je crois que nous avons cette aspiration à une société aussi juste et solidaire que possible. Et ce sont ces paroles, ces actes qu'il nous faut mettre en avant, que nous sommes appelés à choisir.
Pasteur Nathalie Chaumet, ce sera donc pour la semaine prochaine, avec cet appel à dépasser la violence. Mais vous vouliez terminer par un poème pour raviver, même dans l'obscurité, la clarté d'une espérance. C'est un poème de Jean-Pierre Siméon et nous vous écoutons, Florence.
Le noir de la nuit n'est jamais tout à fait noir, même dans la nuit la plus noire, parce qu'y demeure, soulage la vue, une lumière subsistante, une lumière noire, mais qui éclaire le noir.
Face à la brutalité humaine, l'Évangile nous appelle ainsi à résister à l'irréversible, à chercher même dans la nuit des gestes pour renouer avec la vie. Merci Nathalie Chaumet, merci Florence Guémy, et je vous donne rendez-vous dimanche pour cet ultime geste pour espérer sur France Culture à 16h. Solae, le carême protestant, vous était proposé par la Fédération protestante de France en partenariat avec l'Église protestante unie de l'Annonciation à Paris. Merci à Thomas Jost pour la réalisation et à Bruno Mourlan pour la prise de son. Cette émission est à réécouter sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. Les éditions Olivetan éditent, comme chaque année, je vous le rappelle, un livre « Des gestes pour espérer » correspondant à ces conférences avec quelques ajouts complémentaires. Il est vendu au prix de 15 euros plus les frais de port. Les commandes peuvent être réalisées en ligne sur le site internet www.éditions au pluriel. Olivetan.com. Dès aujourd'hui, bien sûr. L'ouvrage sera envoyé directement par voie postale à l'issue des conférences. Et maintenant, eh bien, je vous laisse sur France Culture avec le Carême catholique.